France Inter, le 7-9, intervenez.
Vous intervenez au 01 45 24 7000 avec d'abord Laurent qui nous appelle de Rennes. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, bonjour Monsieur Apparu.
Bonjour Laurent.
Voilà, moi je suis plutôt de sensibilité de gauche, j'ai toujours voté à gauche, mais j'ai suivi avec assiduité les débats de la primaire de la droite. Vous souteniez avant Nicolas Sarkozy, vous avez soutenu Alain Juppé pendant la primaire, et là maintenant vous soutenez François Fillon avec acharnement. J'avoue que moi je sais plus où j'en suis, si je suis de gauche ou de droite, mais j'avais cru déceler chez Juppé quelques ouvertures qui me semblaient intéressantes, et là je vois que en fin de compte, vous soutenez maintenant Fillon, et c'est pas du tout le même, c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout ce qu'on nous a vendu. Donc là, je trouve que ça va plus, je sais plus où j'en suis, et je sais même pas si j'irai voter. Et j'arrive pas à avoir confiance dans quelqu'un qui va changer de cheval. Donc je pense que la soupe doit être bonne pour gouverner. Donc je sais pas, je suis un peu désabusé.
Entendu, merci Laurent.
J'entends que vous êtes désabusé. Peut-être revenons sur ce qu'est une primaire. L'idée même de la primaire, c'est que l'ensemble des personnalités qui veulent candidater à l'élection présidentielle, plutôt que d'être tous ensemble au premier tour avec la certitude de ne pas être qualifiés au second tour, nous décidons d'organiser avant la sélection, entre guillemets, du meilleur de la droite et du centre. C'est effectivement une rupture institutionnelle. Et la difficulté que nous avons, c'est qu'en sortie de primaire, on nous demande de rassembler d'un côté, et de l'autre, on essaie de pointer, ce qui est de bonne guerre, les différences que nous avons exprimées pendant la primaire. Mais rappelons une chose, nous sommes tous de la même formation politique, et comme on l'évoquait tout à l'heure, nous avons un point d'accord sur 80% du programme, 20% de désaccord. Effectivement, pendant la primaire, et c'est logique par le jeu politique, on essaie plutôt de se différencier, et au lendemain de cette primaire, on essaie de se rassembler. Mais je rappelle une chose, notre objectif principal, qui peut être différent du vôtre, Laurent, bien évidemment. Pour nous, c'est l'alternance par rapport à tous les héritiers, et ils sont nombreux, de François Hollande, de Macron à Valls, en passant par Montebourg ou Hamon, et éviter évidemment le Front National. Donc on se bat pour l'alternance par rapport à la gauche et pour éviter le Front National. Et derrière cet objectif-là, on est effectivement tous réunis, quels qu'aient été nos choix premiers.
Bon, il y a un certain nombre de messages d'auditeurs qui s'étonnent aussi de ce passage.
Sincèrement, je le comprends.
D'un champion à un autre.
Et surtout, qui ont perçu des différences qui sont plus grandes
que ce que vous expliquez entre François Fillon et Alain
Juppé. Je me suis moi-même interrogé par rapport à ça.
Oui.
Pour savoir effectivement si passer de l'un à l'autre était effectivement compréhensible pour les auditeurs, pour les journalistes, pour les Français. Je le comprends très bien. Simplement, là encore.
Surtout porte-parole, c'est ça qui est compliqué.
Je suis pas sûr que ce soit compliqué. L'objectif que nous avions tous au lendemain de cette primaire, c'était bien de rassembler. On avait signé les uns et les autres des chartes indiquant que quel qu'ait été notre choix du premier tour, on se rassemblerait derrière celui qui gagnait au second tour. Et là encore, il y avait des différences. Mais sur les grandes questions économiques et sociales, il n'y a pas de différence majeure entre nous. Prenons un exemple.
Ça vous oblige à dire, par exemple, les 500 000 fonctionnaires à supprimer.
J'allais prendre cet exemple.
Ben oui, possible. Bon. Ce sont des promesses qu'on ne tiendra pas, vous l'avez dit. Et puis, quelques semaines plus tard, Fillon pourra le faire.
La différence, elle est où? Hier, Manuel Valls et M. Peillon ont présenté leur programme. Dans leur programme, il n'y a pas de réduction de déficit budgétaire. Pas de suppression de postes de fonctionnaires.
Pour Vincent Peillon, une grande réduction de déficit budgétaire.
Pour Vincent Peillon, non. Vincent Peillon voudrait passer à 2% de déficit. Quand Manuel Valls dit que moins 3, c'est très bien. Bon, c'est leur choix, c'est leur droit, c'est leur projet. À droite, nous étions tous pour arriver à l'équilibre budgétaire. Et tous, parmi les mesures que nous préconisions, il y avait la réduction du nombre de fonctionnaires. Non pas parce que les fonctionnaires font mal leur boulot, mais tout simplement parce que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de payer les fonctionnaires existants. Je vous rappelle un chiffre, parce que c'est ça l'essentiel. À l'heure où nous parlons sur le budget de l'État, un fonctionnaire sur cinq est payé par de la dette. Pour payer les salaires d'un fonctionnaire sur cinq, nous empruntons sur les marchés financiers internationaux. Est-ce que c'est tenable? La réponse de François Fillon, d'Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy, de Bruno Le Maire était non, ce n'est pas tenable. Il faut donc réduire le nombre de fonctionnaires.
Joël nous appelle de Normandie. Bonjour Joël.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Eh bien, écoutez, voilà, moi je suis maire d'un petit village de 280 habitants en Normandie, et je voudrais demander à Monsieur Apparu comment il va, quelle raison il va donner au maire sur la baisse des 20 milliards annoncés là, dont il vient de parler pour les collectivités territoriales, alors que tous les maires que je connais autour de moi s'étaient fortement indignés et pleuraient sur les 11 milliards de baisse annoncés par le gouvernement Hollande.
Merci Joël.
Je suis également maire de Châlons en Champagne, alors qui n'est pas une ville de 280 habitants mais de 50 000 habitants, mais j'ai dans la circonscription où je suis député beaucoup de communes qui ont à peu près cette taille-là. Beaucoup de gens de droite se sont effectivement offusqués devant la baisse des dotations aux collectivités locales du gouvernement actuel. C'est pas mon cas. Je l'ai toujours défendu, y compris publiquement. Parce qu'à un moment, quand on est responsable politique, il me semble qu'on doit assumer un minimum de cohérence. On ne peut pas dire, comme on l'a trop souvent fait, qu'il faut réduire les déficits de l'État, mais dire parce qu'on est maire, mais pas les communes. Dans la ville que j'ai la chance de diriger, j'ai avalé en 2 ans la baisse des dotations des collectivités locales. J'ai baissé les impôts. Je vais augmenter pendant les 5 ans qui viennent l'investissement de la ville de 50% par rapport à tout ce qui a été fait depuis 20 ans. Et le tout en finissant avec un mandat moins endetté. Pourquoi ? Parce que j'ai fait effectivement des efforts très lourds en matière de réduction des dépenses de fonctionnement, y compris de fonctionnaires, y compris en réduisant des fonctionnaires, sans avoir une moindre qualité des services publics, mais en faisant des réformes lourdes et profondes dans ma collectivité locale. Donc je crois qu'on peut le faire.
Donc
et
vous
notre
pensez
responsabilité.
Qu'on peut encore accroître les baisses de dotation.
Je pense
et
que.
Par ailleurs, fixer des
dit,
objectifs.
Pardon.
Et par ailleurs, ça intrigue beaucoup, et c'est dans la question de l'auditrice aussi. Fixer des objectifs chiffrés en matière de baisse du nombre de fonctionnaires territoriaux.
Attention.
Est-ce que ça suppose de changer la loi ou la Constitution?
Pardon. Attention à un point technique. J'ai pas dit qu'il y aurait une baisse des dotations de 20 milliards. J'ai dit que les collectivités locales devraient baisser leurs dépenses de 20 milliards. C'est pas du tout la même chose.
Non.
C'est pas du tout la même chose.
Donc, ça suppose
les collectivités locales doivent baisser leurs dépenses de 20 milliards d'euros.
Comment on peut
c'est
l'imposer?
C'est la proportion. Alors, ça, c'est effectivement la difficulté qu'on peut avoir. La difficulté qu'on peut avoir, c'est qu'à partir du moment où il y a une autonomie des collectivités locales,
qui est inscrite dans la Constitution,
c'est elles qui décident d'augmenter ou non leurs dépenses. Par contre, on peut, si on le souhaite, lier, par exemple, la pérennité de leur dotation globale de fonctionnement, donc des sommes que leur alloue l'État, à la baisse de la dépense publique. Ça, on peut l'organiser.
Denis nous appelle de Poitiers. Bonjour Denis.
Oui, salut. Et fraternité. Monsieur Apparu, bon parleur, vraiment, il a le verbe. Hein. Bah. Monsieur Apparu, vous allez à la soupe naturellement, passant de Juppé à Monsieur Fillon. Il y a une question qui me tracasse depuis un certain temps. Votre protégé Fillon se déclare étant chrétien. Chrétien de quelle obédience? On est chrétien par le baptême. Moi, je suis athée et chrétien aussi, puisqu'on m'a forcé à être baptisé en 1933. Donc, je ne sais pas si votre érudition va jusqu'à reconnaître que l'article 2 de la loi de 1905 déclare que la République est laïque, naturellement, mais que la République ne reconnaît pas les religions.
Benoît Apparu va vous répondre.
La loi de 1905 dit que l'État n'a aucun culte lui-même, mais il reconnaît tous les cultes. Et au contraire, l'idée de la loi de 1905, originelle, probablement travestie aujourd'hui, c'est de dire que l'État n'a pas de culte, mais qu'il doit aider tous les cultes, entre guillemets, à se développer. Deuxième point, pour ce qui me concerne, je ne suis pas baptisé et je ne suis effectivement pas croyant. En quoi il serait interdit à un dirigeant politique de l'être, de se réclamer de ces valeurs-là? Je ne vois pas en quoi c'est un problème. Enfin, dernier élément, je sais que, et c'est normal, l'image des politiques en France est mauvaise, déplorable. Et dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on dit quelque chose, vous nous dites, et je reprends votre expression, mais malheureusement je ne peux que la comprendre, qu'on va à la soupe. Cette image-là, c'est l'échec principal des politiques depuis 50 ans. Dès qu'on fait quelque chose, par exemple, que l'on a soutenu avec conviction Alain Juppé, et qu'on considère que le rassemblement pour éviter le Front National, le rassemblement pour éviter de continuer l'expérience de la gauche, passe par François Fillon, on considère qu'on va se vendre. Je vous rassure sur un point. François Fillon a dit qu'il y aurait 15 ministres, la parité et des sociétés civiles. Les places vont être très chères et donc sincèrement, il n'y a pas beaucoup d'illusions à se faire en la matière pour ceux qui voudraient aller à la soupe.
Bon, en tout cas, il y a beaucoup de messages effectivement qui, comme Denis, s'étonnent ou s'indignent de l'identité chrétienne ou catholique revendiquée par François Fillon. Je vous cite un message par exemple de Stéphane qui nous a écrit sur l'appli France Inter quel est le rapport entre catholique et sécurité sociale. Est-ce qu'on demande au pape ou à l'église de gérer la sécu, vous voyez
Peut-être que ça va un tout petit peu loin dans le propos. Que voulait dire François Fillon ? François Fillon voulait dire hier soir que sa référence entre guillemets chrétienne, qui est une des bases de la chrétienté, c'est l'amour de son prochain, individuel, de chacun d'entre eux, et qu'il ne s'agit aucunement de vouloir matraquer les Français, qu'ils soient moins saignés ou je ne sais quoi. Ces valeurs-là sont essentielles aussi, potentiellement, pour gérer la sécurité sociale, oui.
8h53 à l'écoute de France Inter, je vous présente Augustin Trapenard ici présent. Bonjour Augustin.
Salut Patrick.
Vous avez une question pour notre
invité.
Oui,
bonjour Benoît Apparu. Le rassemblement, moi je veux bien, mais au prix de quel tour de passe-passe et de quel grand écart quand même. Je me souviens de cette tribune que vous aviez publiée il y a quelques mois en réponse à Charles Becbédé, où vous disiez oui au multiculturalisme, non au communautarisme. Dans une droite ligne d'identité heureuse évidemment, mais alors pardon, quand on relit les déclarations de François Fillon, dont vous êtes maintenant le porte-parole, on est pris d'un doute affreux, hein, puisque selon lui, pour le citer mot pour mot, la France n'est pas une nation multiculturelle. Alors je m'interroge, est-ce que vous avez mis vos convictions de côté, Benoît Apparu, ou est-ce que vous avez déjà réussi à le convaincre, parce que c'est possible après tout, François Fillon, sur ce sujet assez important quand même du multiculturalisme.
Est-ce que vous pouvez accepter l'idée que dans un même parti politique, on ait des différences ?
Différences de taille là quand même.
Je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes, je vous dis, est-ce que vous pouvez accepter l'idée qu'on ait des différences et qu'on ait effectivement des expressions politiques différentes ? Dans la droite et le centre, il y a des gens qui sont plus conservateurs. Plus libéraux, moins conservateurs, moins libéraux, plus ouverts, moins ouverts. Il y a des différences. Et quand on n'a pas de différence, vous dites qu'on est tous le doigt sur la couture du pantalon, qu'on est tous caporalisés et qu'il n'y a qu'une pensée unique au sein de la droite. La réponse, c'est qu'il y a des différences. Et l'objectif même d'une campagne présidentielle, c'est que celui qui nous représente arrive à rassembler au-delà de ces différences. Parce que je répète ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Oui, j'ai des différences avec un certain nombre de personnalités qui soutiennent François Fillon. Oui, je vais avoir quelques différences avec François Fillon. J'assume ces différences parce que je considère deux choses. Un, que j'ai 80% de points d'accord avec François Fillon. Deux, que l'objectif que nous devons poursuivre les uns et les autres à droite et au centre, c'est d'éviter les héritiers de François Hollande pour ne pas avoir un quinquennat bis et d'éviter le Front National. Permettez-moi de vous dire que je me retrouve très bien derrière François Fillon sur ces deux objectifs-là, éviter les héritiers de Hollande d'un côté et de l'autre, éviter Marine Le Pen.
Boomerang avec le grand retour de Malocène,
oui,
chez vous.
Daniel Pennac, effectivement, qui fait une rentrée tonitruante puisqu'il a décidé de relancer sa saga Malocène 18 ans après le dernier. Et figurez-vous que le cas Malocène est sorti hier. Alors c'est plus qu'un livre, hein, c'est carrément le début d'une série. Le premier tome s'intitule « Ils m'ont menti ». Alors pour le plaisir et non sans ironie, on va parler de vérité, de fiction, de génération aussi, avec Daniel Pennac dans Boomerang, évidemment.
Daniel Pennac donc dans Boomerang à partir de 9h10 chez vous, Augustin Trapenard.